Embarquez pour l'environnement de travail du futur avec Celseon, expert en virtualisation du poste de travail. Un dossier à retrouver sur le site visionarymarketing.com.
Quelle place et quel avenir pour les logiciels open source après 2020 ? Open source et logiciels libres ne sont pas la même chose. Voici ce que j'écrivais en 2010 lors d'une interview avec le membre d'un groupe d'innovateurs responsables de l'invention de ce terme, Larry Augustin, alors patron de Sugar CRM. Comment vendre du service en complément d'un logiciel quand celui-ci est étiqueté comme logiciel libre ? C'est pourquoi Larry Augustin, un ancien investisseur en capital risque qui fait partie du conseil d'administration de Sugar CRM depuis 2005, a décidé, avec quelques autres personnes partageant les mêmes idées, d'inventer l'expression « open source » afin d'indiquer que si le logiciel libre signifie que les sources du logiciel peuvent être utilisées et révisées par des tiers, cela ne signifie pas que cela peut se faire gratuitement. 10 ans après, Larry Augustin est désormais patron d'Amazon Web Services. En 2018, GitHub a été racheté par Microsoft et Red Hat par IBM. Le moment est donc bien choisi pour faire le point sur l'open source, analyser ses forces et ses faiblesses et se poser la question de son avenir. Un logiciel peut être comparé à une recette de cuisine. Librement accessible, la recette peut être améliorée, enrichie, finalement bénéficier au plus grand nombre, y compris aux créateurs de celle-ci. Telle est l'analogie de Richard Stallman, créateur du projet GNU, GNU, et fondateur de la Free Software Foundation en 1985. Parti de projets de logiciels libres, gérés par des communautés d'amateurs, l'open source s'est structuré et a peu à peu attiré les contributions de géants de l'informatique tels qu'IBM, Microsoft, Facebook. Le succès de certains acteurs de l'open source dans le cloud a d'ailleurs incité IBM et Microsoft à racheter respectivement Red Hat pour 34 milliards de dollars et GitHub pour 7,5 milliards de dollars. Ces rachats confirment-ils la réussite de l'open source ou en annoncent-ils la fin ? Si les projets destinés au grand public sont désormais moins visibles qu'auparavant, l'open source vit paradoxalement ses meilleures heures. Voyons ici pourquoi. Logiciels libres et open source, deux concepts très différents. Bien que les deux conceptions soient étroitement liées, les finalités du logiciel libre et de l'open source sont différentes. Quand la première est fondée sur une philosophie de partage et de gratuité, la seconde se concentre uniquement sur l'aspect technique de cette méthode de développement et met en avant les possibilités offertes par celle-ci au monde économique. En 1998 est créé l'Open Source Initiative qui fixe les 10 conditions à respecter qu'un projet soit considéré comme open source et mette à disposition des licences de distribution. Voir notre adaptation française de ce document ci-dessous. Le succès remporté par l'open source a été immédiat. Tant par la qualité des produits recouvrant une variété infinie de domaines et de publics, WordPress, Firefox, Blender, Audacity, BSD, MySQL, GIMP, que par les communautés soudées ainsi créées. Scrutant avec envie cette mouvance et désirant s'attirer elles aussi la sympathie des communautés open source, certaines grandes entreprises d'informatique ont lancé des initiatives open source avec plus ou moins de succès. Certaines ont été accusées, à commencer par Microsoft ou Vlib, d'open washing. Ce terme, parfois nommé « ouvertisation », désigne un open source de façade violant certaines règles de l'OSI. L'étude Open Governance Project note le degré d'ouverture de projets open source et soulève par exemple le manque d'ouverture d'Android. L'open source domine l'informatique, l'étude Black Duck. Dire que l'open source est omniprésent en 2020 n'est pas une exagération. La preuve en est dans le rapport de Black Duck, issu d'une analyse de 1253 applications de 17 domaines industrie, aéronautique, santé, IoT, marketing, e-commerce, robotique, télécom, etc. Tout d'abord, 99% de ces applications utilisent au moins un module, outil, bibliothèque, open source. Exemple, jQuery, Bootstrap, Fontosum, etc. Le rapport souligne ainsi que la bataille code propriétaire versus open source est terminée et que les derniers récalcitrants, partisans du 100% propriétaire, ne représentent désormais qu'une minorité insignifiante. Mais ce n'est pas tout. Un chiffre bien plus évocateur rend compte de la mainmise de l'open source sur le code actuel. Sur la totalité des applications auditées, le code est constitué à 70% d'open source. Ce chiffre est d'autant plus significatif si on le compare à celui de 2015, où la part de l'open source atteignait à peine les 35%. Le côté obscur de l'open source. Ce qui fait la force de l'open source est la multitude de projets pouvant être rapidement améliorés et trouver une utilité auprès de grandes entreprises, diminuant les investissements de ces dernières et permettant à ces projets de gagner en envergure. C'est un succès qui n'est cependant pas sans risque. Toutefois, les projets open source, bien que très utilisés, ne sont pas nécessairement rémunérateurs. Ceci n'est pas neutre. En effet, cette absence de rentabilité peut avoir des conséquences sur la maintenance de ces modules, dont certains sont devenus incontournables en informatique métier, surtout quand le domaine d'application concerné est un domaine sensible. C'est ce qui se passait avec OpenSSL et la faille de sécurité Heartbleed en 2014 qui ont mis en danger deux grands acteurs du web tels que Google, Wikipédia, Dropbox et Yahoo. Cette vulnérabilité révèle un manque de moyens criant. The OpenSSL Project ne comportait à l'époque qu'un seul employé et une poignée de volontaires, pour un élément aussi critique. Le rapport de Black Duck n'omet pas cet aspect de la sécurité et estime ainsi que 75% des applications analysées comportent au moins une vulnérabilité et 49% une vulnérabilité à risque élevé. Au-delà de l'aspect sécuritaire, Open Source voit émerger dans certains projets les défauts inhérents à toute organisation reposant en partie sur une communauté de volontaires dont les visions, ambitions et philosophies divergent à la fois. L'effet le plus commun de cela est le fork, moment où une partie de la communauté part d'un projet pour développer le code vers une autre direction. C'est l'essence même de l'open source et ne peut être vu comme un défaut. Cependant, cela ne vient pas faciliter la compréhension des différentes solutions pour un non-initié. La simple vue des distributions GNU Linux et des forks qui en découlent résument la complexité que peut apporter cette philosophie. Ainsi, une telle organisation et ses conséquences peuvent mener à un ralentissement dans le changement et l'innovation. C'est le cas de Mozilla Firefox, qui, après avoir longtemps dominé le monde des navigateurs Internet et conduit l'innovation, se retrouve en fort déclin face à Chrome de Google. S'il est indéniable que Chrome bénéficie de l'écosystème de Google et de sa position quasi-monopolistique sur la publicité web, la transition manquée sur le mobile et les soucis techniques du navigateur ont fait fuir plus d'un fidèle. Où va l'open source ? Les rachats de GitHub et Red Hat ont été vus par les observateurs comme une occasion d'accroître la présence des deux géants informatiques sur le cloud. Du côté d'IBM, la tentative Watson n'a pas eu les effets attendus en termes de chiffre d'affaires et l'acquisition de Red Hat, bénéficiaire, pourrait permettre à Big Blue de rattraper cet échec. Microsoft a connu davantage de succès en basculant ses offres dans le cloud. Le rachat de GitHub se présente comme une chance de plus pour peser davantage dans le cloud. GitHub est en effet la plateforme regroupant la plus grande communauté open source au monde, soit 28 millions de développeurs. Attention au raccourci. Voir le rôle des grands acteurs de l'informatique comme celui de simples financiers mangeurs d'éditeurs open source bénéficiaires serait néanmoins erroné. Ces entreprises sont également de sérieux contributeurs et mettent à disposition des moyens sans lesquels certains projets d'envergure ne pourraient exister. L'open source a donc encore de beaux jours devant lui, même si sa forme actuelle est sans doute bien éloignée des idéaux de Richard Stallman. Définition de l'open source, adaptation du code de l'open source et des 10 règles de l'open source initiative. Introduction. Par open source, on n'entend pas simplement que l'accès au code source doit être ouvert. Les conditions de distribution de ces logiciels à code source ouvert doivent respecter les critères suivants. Premièrement, redistribution gratuite. La licence ne doit empêcher quiconque de vendre ni de céder le logiciel en tant que composant d'une distribution agrégée de logiciels contenant des programmes provenant de plusieurs sources différentes. La licence ne doit pas exiger de redevance ni d'aucun droit en échange d'une telle vente. Code source. Le programme doit inclure le code source et permettre la distribution sous le format source ainsi que sous forme compilée. Lorsqu'un quelconque produit n'est pas distribué avec son code source, il doit y avoir un moyen évident d'obtenir le code source pour un coût de reproduction raisonnable, de préférence par téléchargement gratuit via Internet. Le code source doit être la forme préférée pour permettre à tout programmeur de modifier un programme. Il est interdit de brouiller le code source. Les formes hybrides telles que le recours à un préprocesseur ou un traducteur de code ne sont pas autorisées. Œuvre dérivée, troisième règle. La licence doit autoriser les modifications et les travaux dérivés et doit permettre leur distribution aux mêmes conditions que la licence du logiciel original. Quatrième règle, intégrité du code source de l'auteur. La licence peut restreindre la distribution du code source sous une forme modifiée uniquement si la licence autorise la distribution de fichiers patch avec le code source dans le but de modifier le programme au moment de la construction. La licence doit explicitement autoriser la distribution de logiciels construits à partir de code source modifiés. la licence peut exiger que les œuvres dérivées portent un nom ou un numéro de version différent de celui du logiciel original. Cinquième règle, absence de discrimination à l'égard de personnes ou de groupes. La licence ne doit pas être discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Sixième règle, non-discrimination des domaines d'application. La licence ne doit pas empêcher quiconque d'utiliser le programme dans un domaine d'activité spécifique. Par exemple, elle ne doit pas empêcher l'utilisation du programme dans une entreprise ou pour la recherche génétique. Septième règle, distribution de la licence. Les droits attachés au programme doivent s'appliquer à tous ceux à qui le programme est redistribué, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une licence supplémentaire de la part de ces parties. Huitième règle, la licence ne doit pas être spécifique à un produit. Les droits attachés au programme ne doivent pas dépendre du fait que le programme fasse partie d'une distribution de logiciels particulière. Si le programme est extrait de cette distribution et utilisé ou distribué selon les termes de la licence du programme, toutes les parties auxquelles le programme est redistribué doivent avoir les mêmes droits que ceux qui sont accordés en liaison avec la distribution originale du logiciel. Neuvième règle, la licence ne doit pas restreindre l'utilisation d'autres logiciels. La licence ne doit pas imposer de restrictions sur les autres logiciels distribués avec le logiciel sous licence. Par exemple, la licence ne doit pas insister sur le fait que tous les programmes distribués sur le même support doivent être des logiciels à code source ouvert. Dixième et dernière règle, la licence doit être neutre sur le plan technologique. Aucune disposition de la licence ne peut être fondée sur une technologie ou un style d'interface particulier. Source https://opensource.org/OSD en minuscule. La définition de l'open source a été dérivée des guidelines Debian Free Software, DFSG Guidelines pour les anglophones.
Embarqué pour l'environnement de travail du futur avec Celseon, expert en virtualisation du poste de travail, un dossier à retrouver sur le site visionarymarketing.com.